Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Très heureux de vous retrouver, évidemment, comme chaque week-end. Sachez que c'est le dernier week-end des grandes gueules du sport. Avant les Jeux Olympiques, ensuite place au direct, place à la folie, place aux médailles de notre équipe de France. On l'espère, évidemment. Toujours avec Fred Weiss, Pascal Duprat et Sarah Pitkowski. Dans quelques instants, nous allons parler du transfert de Mason Greenwood qui divise Marseille, l'international anglais accusé il y a 2 ans de violences sexuelles et physiques par sa compagne. Ce transfert est-il choquant? Ce sera le bras de fer. L'équipe de France de basket est en train de rater sa préparation pour les Jeux Olympiques. Faut-il quand même s'inquiéter, vraiment s'inquiéter? Et puis J-5 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le secret le mieux gardé de France. Qui va allumer la vasque olympique? Est-ce un véritable enjeu? Les GG ou juste un symbole? Nous ouvrons le débat à 11h. Justement, les Jeux Olympiques, vous allez pouvoir remporter l'expérience RMC et remporter vos places pour les meilleures épreuves de Paris 2024. Écoutez-moi bien. Ce matin, dans une heure, nous accueillerons le grand gagnant en direct. Ce matin, dans les grandes gueules du sport, nous vous offrons 2 places pour assister aux épreuves de natation qui auront lieu le 31 juillet à la Défense Arena de Paris. Le 31 juillet, je vous donne comme ça le programme pour vous faire saliver. Vous pourrez assister à la finale du 100 mètres nage libre femme, mais également à la finale du 200 mètres papillon homme, avec un certain Fred.
Léon Marchand.
Léon Marchand. Voilà pour votre cadeau magnifique. 2 places pour la natation. À cela, on ajoute 2 entrées VIP au Club France. Ce sera la grande halle de la Villette. Vous envoyez tout de suite Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Le grand gagnant sera avec nous donc dans cette émission. Dans une heure, ça peut aussi vous arriver. Bonne chance à tous. C'est ce qu'on appelle une volée de bois vert.
RMC, le bras de fer GG.
Greenwood has a go. Oh! Born to score goals. And that was a stunner. Mason Greenwood.
On est là pour le football, on n'est pas là pour juger sa vie, on n'est pas des juges. On jugera sur le terrain.
Nous, on est seulement supporters, on ne peut pas se permettre, je pense, de critiquer ou de juger.
Ojo al disparo!
Prétend jouer à l'Olympique de Marseille, Greenwood. Mais c'est une honte.
Alors, c'est important de bien expliquer cette histoire. C'est un transfert qui pourrait laisser des traces cette semaine. Donc, l'OM a officialisé le transfert de Mason Greenwood, jeune attaquant de 22 ans, devenu persona non grata en Angleterre. Le 30 janvier 2022, Greenwood est accusé de violences physiques et sexuelles par sa compagne. Scandale outre-Manche, Manchester United le suspend sur le champ. Harriet Robson publie plusieurs photos et vidéos sur Instagram. Sur ces images, la jeune femme apparaît avec le visage en sang et montre plusieurs hématomes sur son corps. Elle partage aussi une note vocale de ce qui ressemble à une violente dispute, suggérant qu'elle a été forcée à avoir un rapport sexuel. Quelques jours plus tard, son sponsor Nike lâche aussi Greenwood. 1 an plus tard, en février 2023, et alors qu'il est toujours suspendu par Manchester, Harriet Robson retire sa plainte. Le couple se remet officiellement ensemble. Ils annonceront en juillet la naissance de leur premier enfant. Manchester veut alors le réintégrer lors de cet été 2023, mais la pression est trop forte, notamment de la part des supporters. Alors en août dernier, l'international anglais fait ses valises et il est envoyé en prêt à Retafe. Il rejoue pour la première fois le 17 septembre 2023, après 603 jours sans match, début juillet 2024. L'info tombe, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, veut le récupérer. Le maire de Marseille, Benoît Payan, tombe des nues.
Moi, j'ai vu des images qui m'ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme. Et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l'Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça, en fait. C'est tout sauf du racisme, de l'antisémitisme. C'est tout sauf... Vous vous rendez compte des violences faites aux femmes? Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je n'imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure.
Et pourtant, si, quelques jours plus tard, ce transfert est-il choquant? Dans le coin gauche, la team oui, représentée ce matin par Fred Weiss. Dans le coin droit, la team non, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski avant de débattre. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Florestine Jaffrelot. Bonjour Florestine.
Salut les GG, salut à tous.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'OM n'a pas apprécié la sortie du maire de Marseille.
Oui, semaine agitée à Marseille. Mercredi, en début de soirée, à l'aéroport de Marignane, Mason Greenwood est accueilli par quelques dizaines de supporters. Des fans heureux de voir l'attaquant anglais débarquer.
Mais je pense que lui, c'est bonne pioche. S'il est là, c'est que De Zerbi le veut. Voilà. Et nous aussi.
S'il y a 2-3 ans en arrière, on m'aurait dit que Greenwood il aurait signé, j'aurais jamais cru. Donc, si on parle uniquement du sportif, c'est fabuleux. Je pense que c'est une des plus belles recrues depuis au moins 10 ans.
Une arrivée dans le club phocéen qui ne plaît pas à tout le monde. Fabio, membre du mythique collectif de supporters des Dodgers, est lui sceptique.
C'est une erreur qui est fatale avec le temps. Peut-être qu'on l'acceptera. C'est sur le terrain qu'il faudra qu'il fasse oublier tout ça, quoi.
Pour Delia, ce transfert n'est pas digne de l'Olympique de Marseille.
Je trouve qu'il ne respecte pas les valeurs de ce club, qu'il n'a rien à faire dans ce club.
Vendredi, le joueur a été présenté à la presse.
Je suis impatient de faire partie de l'Olympique de Marseille, aller de l'avant avec ma famille, ma fille, mes coéquipiers et le club, de me focaliser sur le football et en dehors du terrain, sur ma famille.
À côté de lui, Pablo Longoria, président de l'OM, en a profité pour expliquer qu'une enquête avait été menée sur le comportement du joueur. Investigation faite auprès de ses proches et de Rétafé, où Greenwood était prêté la saison dernière.
Je respecte l'opinion de chacun, mais je ne suis pas ici à rentrer en polémique. On parle du passé. Pour parler du passé, la chose à comprendre, c'est que c'est une situation complexe et c'est une situation ancien.
Mason Greenwood a participé à son premier entraînement vendredi. Il pourrait disputer aujourd'hui ses premières minutes sous le maillot olympien. L'OM affronte Nîmes à 18h en match amical.
Merci Florestine pour le résumé de cette semaine particulière à Marseille. Ce transfert est-il choquant ? On vous a posé cette question depuis ce matin sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. C'est assez partagé, mais il y a une tendance qui se dégage. C'est non à 60%, oui à 40%. Fred Weiss, tu es pour l'instant tout seul, tu commences dans ce débat, tu es derrière.
Oui, on a un problème sociétal. C'est-à-dire que ça arrive malheureusement dans tous les corps de métier, et quand je dis tous les corps de métier, vous comprenez très bien ce que je veux dire, partout dans l'État, et de ce fait, on a tendance à dire que finalement c'est pas si grave. L'OM, pour moi, est un club ultra important, c'est un club que j'apprécie particulièrement, je l'ai déjà dit, je suis pas un grand spécialiste foot, mais si un club devait m'attirer, ce serait l'OM, et pour moi, il y a des choses qui font que l'OM est un club particulier. C'est-à-dire que, en gros, c'est quasiment une religion. Là-bas, on apprécie le club. Et les joueurs sont mis en exemple. Et la dernière fois, j'ai eu la chance cette semaine de travailler toute la semaine sur l'Intégral Sport. Et on a eu un Marseillais supporter qui nous disait, je suis fan de l'OM depuis que je suis tout petit. Quand j'étais petit, les joueurs étaient mes idoles. J'en rêvais. Mon rêve était de devenir comme eux. Et maintenant, j'ai une fille. Qu'est-ce que je lui explique? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que à l'OM, on prend des personnes seulement parce qu'ils sont talentueux au foot. On s'en fout ce qu'ils font dans la vie. Non, on peut pas faire ça dans certains clubs. Il y a des clubs qui peuvent le faire parce qu'ils mettent le curseur de la morale à un autre endroit. Sauf que à l'OM, pour moi, c'est compliqué. J'ai juste envie de revenir aussi sur un point. Il faut se rappeler qu'en 2020, pendant la période Covid, la commanderie a ouvert ses portes à une vingtaine de femmes et d'enfants pour l'association SOS Femmes 13. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces femmes? On leur dit, on vous soutient, on vous supporte, on est d'accord avec vous, c'est inadmissible. Bon, sauf si votre mec est super fort au foot. C'est ça qu'on va leur dire? Bah, je suis désolé.
Elle devrait déjà être partie. Or, si j'ai bien lu, elle s'interroge parce que certainement que cette association, elle a gagné avec l'Olympique de Marseille.
Non, mais bien sûr qu'elle a gagné. Mais ça veut dire qu'à un moment, tu aides les femmes qui sont
normalement, elles auraient dû quitter la table sur le champ. Or, aujourd'hui, cette association n'a pas encore décidé si elle quittait l'OM ou pas. Donc là, tu vois que les débats sont divisés. Donc encore une fois, moi, je vais te rejoindre sur le fait que, bah, bien sûr, un mec qui tape une nana, quelqu'un qui fait des violences sur une femme, il doit être condamné. Ça, on est tous unanimes. Moi, je vais au cran supérieur. Depuis qu'il a été condamné, il s'est passé beaucoup de choses. La chose qui s'est passée, c'est qu'à moins que sa femme, elle soit atteinte du syndrome de Stockholm, elle est avec lui. celle qui s'est, la femme qui s'est donc fait frapper, elle est avec lui, ils ont eu un enfant. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte.
On n'est pas dans les couples, Pascal, on peut pas se permettre.
Non,
on peut pas
rentrer dans les couples, ça. Excusez-moi,
on va parler de choses délicates, donc c'est juste important. Je prends la main juste là-dessus. C'est pas la première fois, malheureusement, et on le sait que dans ce genre de situation, et je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut juste le préciser parce que c'est important que des femmes restent avec leurs compagnons, même si elles sont battues, ça arrive et ça arrivera toujours, malheureusement. Voilà, c'est juste ce que je veux apporter comme précision.
Ce que je veux dire, c'est aller plus haut au débat, ou alors aujourd'hui, donc ce couple semble être ensemble, semble être heureux, avoir un enfant. Encore une fois, je suis pas à l'intérieur du couple. Donc moi, je me place au niveau de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, qui est un club de football, qui est là, une société commerciale, qui est là pour obtenir des résultats, qui est un grand club français, le seul club capable de concurrencer le Paris Saint-Germain. Voilà que ce club,
Pascal,
il a cette possibilité-là. Laisse-moi terminer.
Oui,
laisse-moi terminer. Si j'avais été à la place de Longoria, malheureusement, j'y serais jamais. Je l'aurais pas pris. Mais ça me regarde. Maintenant, je peux comprendre que Longoria l'ait pris. Voilà. Je l'aurais pas pris parce que surtout, on oublie une chose, c'est qu'il le paye 31 millions d'euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup et ça met l'accent sur le joueur. Il va avoir une pression énorme. C'est bien fait pour lui. Il s'est mis en difficulté. Il va avoir une pression énorme à l'OM avec les supporters de l'OM. Donc, tu suis bien mon raisonnement. Si j'avais été à la place de Longoria, je ne l'aurais pas pris. Pour toutes les raisons que tu as évoquées. Maintenant, si je pousse un peu plus loin le débat, je me mets à la place de Longoria, ben, il a pris le risque. Il a pris le risque et c'est son rôle de prendre des risques. Voilà, il prend des risques parce que ce joueur-là, il a un talent incroyable. C'est pas la meilleure recrue que l'OM ait fait ces 30 dernières années, ça reste à confirmer. Mais cela dit, c'est quand même footballistiquement un bon coup. Restons donc sur cet aspect sportif. Je pense que c'est un bon coup que je me serais pas permis de faire si j'avais été à sa place. Et parce que j'aurais mesuré justement l'ampleur des
parce que
des,
tu trouverais ça problèmes. Choquant toi-même. Donc
oui,
en fait
choquant,
donc
tu es d'accord, choquant.
Tu trouverais ça absolument choquant.
Mais donc, bien sûr que oui,
donc raisonne par rapport à ta façon de penser, pas par rapport au fait que effectivement c'est un coup, effectivement c'est potentiellement un énorme joueur.
Si mais c'est trop facile ça. Ce qui se passe dans l'esprit de Longoria quand il prend. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille, c'est les champions du monde de nous prendre des joueurs de partout depuis que Longoria est là. Et voilà qu'il a cette possibilité là d'un joueur qui est international anglais, qui a été le plus jeune joueur qui a été installé sur la pelouse en première ligue par Manchester United. Je crois qu'il avait 16 ans et demi. Donc c'est un vrai talent.
Mais évidemment qu'on n'aurait jamais pu avoir ce joueur à Marseille sans cette situation, évidemment.
Et c'est évidemment ça qui est dingue, c'est que sans cette situation, tu le disais, Marseille n'aurait jamais pu faire un joueur comme Mason Greenwood, donc il a sauté sur cette occasion. Ce transfert est-il choquant ? Non, Sarah Pitkowski.
Non, il n'est pas choquant parce que je vais me placer du côté de la justice dans le sens où il y a une plainte qui a été déposée. Il aurait pu être condamné, mais cette plainte a été retirée. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'était pas passé puisque c'était visible, les photos et l'audio et ainsi de suite. Mais qui sommes-nous pour juger, dans le cas de Greenwood, s'il peut avoir ou non une deuxième chance? Et ce qui se passe dans sa vie privée, le droit à la deuxième chance existe, et c'est une deuxième chance dans le sens où, en plus, la deuxième chance, elle a été donnée par la personne avec qui il vit. Elle a retiré sa plainte. Quand on fait état de tout ça, il faut aussi savoir que dans la société aujourd'hui, et tu le disais, j'y sais, ce qui se passe est quelque chose de plus en plus fréquent. C'est absolument terrible, mais en fait, le foot... C'est quoi le foot ? C'est que le reflet des dérives de notre société. C'est-à-dire qu'on parle de frustration et de colère, qu'on soit footballeur ou banquier, et qu'aujourd'hui, il y a des passages à l'acte qui se font de plus en plus fréquemment. Donc, sur ce plan-là, pourquoi ? Et qui sommes-nous pour le juger et dire il n'a pas le droit à une deuxième chance, en
alors
fait ?
Alors nous, peut-être après, non, mais une institution. Non, mais c'est une vraie question.
Une institution, mais ça veut dire que tu ne peux pas aller travailler ? Ça veut dire qu'il ne peut jouer qu'en deuxième ou en troisième division ?
Parce que le club de deuxième et troisième division, il a le même problème, hein, c'est une patate chaude.
Mais parce qu'il sera moins exposé médiatiquement.
Ça justifierait que le club le prenne, sous prétexte qu'il serait moins exposé ? Non,
tu fais un buzz moins important parce que tu es moins exposé. Mais
Sarah, j'entends tout ce que tu me dis, tu as raison, mais Manchester, Évidemment, c'est une institution. C'est
une grande institution. Mais ça s'est passé en Angleterre.
Mais évidemment, ça a fait un scandale, je le disais, là-bas en Angleterre. Mais après, il y a eu la plainte qui a été retirée.
Oui.
Mason Greenwood qui a failli être réintégré, qui a commencé à être réintégré. Oui. Manchester a commencé à préparer le terrain avec ses supporters.
Et ça n'a pas marché.
Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le faire jouer.
On est d'accord. Mais il y a la distance. On sait que la distance est le temps fait son œuvre. Si on commence à dire que c'est choquant pour Greenwood, on fait quoi sur Benjamin Mendy? Et puis on fait quoi sur Lucas Hernandez? Et on fait quoi sur Kingsley Coman? Et on fait quoi sur Boateng? La justice est passée pour certains.
Et pourtant, c'était compliqué, hein, pour Benjamin Mendy.
Et ça a été compliqué. Donc, moi, je suis comme Pascal. J'allais te poser la question, Pascal. J'allais exactement te poser cette question-là. Si tu avais été à la place de Longoria, est-ce que tu l'aurais fait? Tu as répondu. Moi, on me donne les clés d'un club. On me dit, est-ce que tu prends ce joueur-là? Je ne le fais pas. Mais c'est pas pour autant que je suis choquée de ce que fait Longoria ou de ce que fait l'OM. C'est une entreprise.
Parce qu'en gros, vous êtes en train de dire, moi, je ne le ferai pas parce que je pense que c'est pas bien, etc. Certains le font, vous dites,
tu peux pas avoir la morale de tout le monde.
Mais c'est ce que je te dis. Ça dépend où tu mets ton curseur de morale. Et pour moi, l'OM est un grand club, une grande institution, et eux, ils doivent choisir où ils veulent se positionner par rapport à ce curseur. C'est-à-dire soit la morale, soit uniquement le sportif. Et on parle de Mendy. Il joue à Mendy dans une grande institution comme l'OM?
Il joue à Lorient.
Moi, il joue à Lorient. Bon club, il y a rien à dire. Et en plus, lui, la justice est passée dessus. Non coupable.
C'est pas la première fois que l'on se pose la question. Pas forcément sur des violences sexuelles, physiques. Mettons ça non pas de côté, mais parlons d'autre chose. Par exemple, Dejan Lovren, qui à un moment donné a signé à Lyon. Il y a eu des chants racistes et je me souviens qu'il y avait cette vidéo et je me souviens de Laurent Blanc qui avait dit non mais attendez, ça c'est de l'extra sportif en conférence de presse, il était alors l'entraîneur de Lyon. Moi, ça me regarde pas. Je prends un joueur sur le sportif. Donc, Pascal, je viens te voir. Est-ce que un club de foot, et je parle pas que du cas de Greenwood, a un devoir sur l'homme ou la femme qu'il recrute?
Bah oui, à partir du moment où il te représente, il a bien sûr des droits, mais il a aussi des devoirs par rapport au club et par rapport à une attitude. Voilà, moi chaque fois que j'ai eu, c'est pas été souvent, hein, mais chaque fois que j'ai eu, on va parler de l'ETG, de mon club de toujours, bon, j'avais un certain poids qui était supérieur au sportif dans ce club-là, parce qu'on avait une image à véhiculer aussi, et voilà, on faisait l'économie. Chaque fois qu'il y avait un dossier qui nous paraissait, on va dire épineux, on en faisait l'économie. On prenait pas, voilà. Alors est-ce que c'est un manque de courage ou c'est par rapport à une ligne de conduite? On voulait avoir une ligne de conduite, voilà, tout simplement.
Et est-ce que cette ligne de conduite, elle est possible dans un club comme l'OM
avec 31 millions d'euros, Jean-Christophe, pardon, j'anticipe ta question. Tu peux en prendre de bons joueurs avec 31 millions d'euros?
Ouais, mais peut-être pas de ce calibre.
C'est un club populaire. Il influence tellement de personnes. Moi, honnêtement, certaines institutions, pour moi, c'est pas logique qu'elles mettent le curseur sur la non-morale et plus sur le sportif.
Fred, là où je comprends pas. Alors, si tu me comprends pas, je l'accepte. Mais là où je te comprends pas, c'est sous prétexte que c'est une grande institution. Alors, ils doivent pas le faire. Et d'autres institutions un peu plus petites auraient le droit de le faire.
C'est pas ce que je suis en train de dire.
Que ça, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai juste que, en fait, la question c'est pas de savoir s'il faut le faire ou pas. Si tu ne mises que sur le sportif, faut évidemment le faire. Sauf que on pose la question de savoir si ça me paraît choquant que ce joueur signe à l'OM. Eh ben oui, je suis désolé, ça me paraît choquant. Et peut-être que j'aurais dit pareil sur Retafe. Sauf que c'est pas la question. La question c'est de savoir est-ce qu'il signe. Le fait qu'il signe à l'OM me choque. Oui, parce que j'aime ce club et je trouve que les valeurs qui sont affichées avec cette signature ne correspondent pas à ce que j'attends de ce club.
Donc tu serais choqué qu'il signe dans n'importe quel club?
Oui, objectivement,
donc,
oui.
En fait, tu es choqué qu'il reprenne le foot?
Mais je suis choqué qu'il se remette en avant. Qu'il joue au foot, qu'il fasse son métier. Il fait son métier, je suis d'accord, mais il y a des choses qui, pour moi, sont absolument trop choquantes pour refaire son métier. Comme certains chanteurs qui ont fait des choses et qui se repermettent de chanter après.
Je comprends où tu places le curseur, mais alors, encore une fois, la plainte a été retirée, donc il n'a pas été jugé. Que fait-on d'autres joueurs qui ont été condamnés, qui ont donc payé leur peine, donc eux aussi n'ont plus le droit de jouer au foot.
Honnêtement, c'est très compliqué aussi par rapport à ça. Et personnellement, encore une fois, c'est mon curseur que je développe. Mon curseur, moi, je ne les prends pas.
Donc,
et je
les empêche de jouer. Donc, tu exclus tout droit à la seconde chance à partir du moment où tu fais un métier qui est exposé.
Tout dépend le délit que tu commets. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas droit à une seconde chance, mais ce genre de délit, l'homophobie, le racisme, pour moi, il n'y a pas de deuxième chance. C'est tout. Je suis désolé.
Bon, on va arrêter ce débat-là. On a bien compris vos positions. En tout cas, c'est vrai que c'est un transfert qui a beaucoup fait parler, celui de Mason Greenwood. On va voir maintenant ce qu'il donne.
Il va pas avoir de seconde chance évidemment,
sur le terrain, et puis aussi des actions, hein, parce qu'il y a quelques collectifs, des associations féministes, évidemment, qui se sont déjà emparées de ce dossier. On suivra tout ça. En tout cas, toutes les dernières informations, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Nous terminons ce bras de fer des GG avec Fred Weiss qui a gagné un petit point. On est parti à 40%. Vous n'êtes pas choqués, 60% choqués. On termine à 41%. 159%. Voilà, on va clore ce vote et donc ce débat sur Mason Greenwood. Dans quelques instants, 10h27, on se retrouve pour la punchline des GG et un sport cher, évidemment, à Fred Weiss, le basket, avec l'équipe de France qui est en train de rater sa préparation. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski. Dernière émission avant les Jeux Olympiques à partir de demain. Un programme exceptionnel autour de l'intégrale Paris 2024 avec évidemment vendredi la cérémonie d'ouverture. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Bref, un programme, vous allez voir, magnifique sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Dans 10 minutes, on s'en fout pas, avec notamment Rafael Nadal qualifié pour sa première finale depuis 2022, ou encore de nouveaux éléments, un rapport accablant dans l'affaire de rugbyman Jégou Oradou. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. Et puis vous le savez, 11h45, les GG contre-attaquent. Mais GG, cette saison, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote, évidemment. Vous avez 20 secondes pour nous le vendre et c'est maintenant. Fred Weiss, tu veux parler de quoi?
J'avais envie de parler d'Alpine. Alpine, depuis le début de saison, c'est très compliqué quand même. La voiture trop lourde, la voiture pas de qualité. Et là encore, là sur les qualifications, une erreur de stratégie. Et on peut commencer à se poser la question. Est-ce que Alpine peut tomber plus bas cette saison?
Ok. Et t'as envie de te poser cette question?
J'ai envie de me poser cette question parce que ça commence à vraiment inquiéter tout le monde.
Et la poser au GG, évidemment. Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski. Pascal, ta proposition?
Eh bien moi, ma proposition, c'est hier, à la fin de l'étape du Tour de France, quand Romain Bardet est interviewé et que je le vois en pleurs parler de sa carrière. Et il m'est venu cette question que j'aimerais débattre avec vous. A-t-il la reconnaissance du public français qu'il aura mérité tout au long de sa carrière? Voilà, est-ce que le public français l'a appréhendé à sa juste valeur, Romain Bardet, qui est un grand champion, pour mon point de vue?
Magnifique moment, hein. Hier, Romain Bardet, tu le disais en larmes, après cette dernière étape pour lui de montagne dans un Tour de France. Si vous voulez écouter Romain Bardet, eh bien c'est simple, il faut voter pour Pascal Dupraz. Sarah Pitkowski.
Alors moi, je vais vous parler de cette fameuse flamme olympique qui nous anime depuis l'arrivée le 8 mai du côté de Marseille. Et je voulais vous partager un propos, une réaction de Philippe Candeloro il y a 2 jours, qui a été interrogé sur les porteurs de flamme. Et en fait, ça m'a fait tilt. Je voulais vous partager mon idée et je suis tellement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a un petit raté sur ces porteurs de flamme, parce que quand on sait que la France compte près de 800 athlètes médaillés olympiques, que ce soit en été ou en hiver, ces 800-là n'ont pas été contactés pour porter la flamme. On se dit un pays de sport, c'est pas évident. Et je pense que nous aurions dû avant tout prioriser les médaillés olympiques avant de compléter avec des porteurs de flamme de la société civile, et etc. Et donc, je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'on a eu un raté sur le choix des porteurs de flamme?
Et Fred Weiss, qui n'était pas prévu au programme, hein, il a fallu qu'il s'en ouvre ouvertement dans les GG du sport pour être appelé, et il l'a porté, la flamme. Si vous voulez en parler, bref, vous avez 3 idées de débat. Vous allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Dans une semaine, les Bleus du basket vont débuter leur tournoi olympique. Ce sera samedi soir prochain face au Brésil. Ce soir, l'équipe de France dispute son dernier match de préparation face à l'Australie. Une préparation ratée pour le moment. 2 victoires pour débuter, puis 3 défaites de suite. Rudy Gobert opte pour la méthode Coué après la dernière défaite vendredi soir face au Canada. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
On a confiance en nos forces, on a confiance en qui on sait où on veut aller. Alors on n'est pas là pour avoir une médaille de participation, on est là pour accomplir quelque chose de grand et ça passera par battre des équipes de ce niveau à un moment donné. Donc je dirais, pas besoin d'être rassuré, il faut continuer à évoluer, continuer à progresser. La chose positive, c'est que là, je sens que voilà, il y a une progression chaque jour et chaque match. Le plus important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit et ce qu'on propose des deux côtés du terrain. Et en général, si on est là où on doit être et on joue comme on doit être, on aura beaucoup de chances de gagner.
Voilà, pas besoin de se rassurer, nous dit Rudy Gobert. Faut-il quand même s'inquiéter pour nos bleus? Oui ou non? Fred Weiss?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Bah oui, quand même. Hein.
Pascal Duprat?
Eh bien non.
Eh bien non, Pascal et Fred sont évidemment toujours d'accord dans cette émission. Non, on a un grand plaisir. Non, non, vous n'êtes jamais d'accord, évidemment. C'était de l'ironie. Avant de débattre, notre commentateur basket, Arnaud Valadon, est avec nous aujourd'hui. Salut Arnaud.
Bonjour les GG.
Alors nous avons entendu Rudy Gobert. Est-ce qu'il y a tout de même un peu d'inquiétude au sein du groupe France après cette préparation, je le disais, ratée?
Trois défaites de suite, l'Allemagne, la Serbie et le Canada. Trois cas d'or et candidat à une médaille olympique. Mais pas d'inquiétude en interne car la prépa est très relevée. C'était un souhait. Les bleus du basket sont vraiment quand même loin de dominer le monde pour l'instant. Si la défense a retrouvé des couleurs, l'attaque est en berne. Avec l'intégration de Victor Wembanyama et d'autres jeunes, l'équipe est repartie presque d'une page blanche pour cette campagne. Vincent Collet, lui, ne veut pas tomber dans le fatalisme.
Il faut garder le cap. Dans ces moments-là, il est facile de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est là qu'il faut qu'on soit solide. Bien sûr, conscient qu'il y a un vrai chantier, encore beaucoup de travail à accomplir. Mais pour l'instant, on est vivant. Et ce qu'il faudra, c'est être en mode combattant. Et pour l'instant, sur ces aspects-là, je trouve que mes gars se comportent plutôt très bien.
Symbole des difficultés offensives, Evan Fournier, l'arrière, est le meilleur marqueur de l'équipe de France à chaque compétition depuis 2017. Et depuis un an, le joueur doute avec une carrière NBA qui s'est compliquée. Vendredi, 3 points inscrits seulement contre le Canada, 25% d'adresse sur l'ensemble de la préparation. Le joueur, lui, veut rester lucide malgré les difficultés.
Nous tous, il faut qu'on fasse mieux individuellement. Bah, je suis pas content, je vais pas dire que je suis content après un match comme ça, mais j'ai assez d'expérience pour mettre les choses en perspective tout en ayant la lucidité de savoir ce que j'ai à faire.
Dernier match de préparation ce soir contre l'Australie. Il faut se souvenir qu'avant la médaille d'argent à Tokyo et notamment cette victoire inaugurale face aux États-Unis, les Bleus avaient fait un 0 sur 3 en préparation.
Merci beaucoup Arnaud Valadon. Tu restes avec nous pour ce débat. Faut-il quand même s'inquiéter pour nos Bleus? On va d'abord écouter Pascal Duprat. Comme ça, Fred, tu vas pouvoir lui répondre.
Pourquoi je suis surpris. Je suis surpris que Fred soit inquiet.
Parce que j'ai regardé les matchs, Pascal.
Mais moi aussi, j'ai regardé juste le dernier match. Pardon, j'ai pas tout regardé. C'est pas le sport que je préfère. Mais c'est un sport que je respecte, bien entendu. Et surtout, depuis que je te connais, je le respecte encore plus. Magnifique. Voilà pourquoi je pense sincèrement que cette équipe, elle m'inspire pas la crainte. Parce qu'elle est composée, ça, tu vas me rejoindre, d'excellents joueurs qui sont tous, pas tous performants en ce moment en NBA, mais qui sont quand même tous de très bons joueurs, suffisamment bons pour être recrutés dans le meilleur championnat du monde. Je pense que l'équipe de France va capitaliser sur sa défense. Elle va retrouver ses valeurs défensives. Je pense que l'équipe de France est entraînée par un très très bon entraîneur. Et ça, Vincent Collet, je pense qu'il connaît son boulot. Je pense, comme ils le disent, qu'ils sont en période de préparation. Je sais qu'il va y avoir trois matchs de poule, et que ces trois matchs de poule, même si un match n'est jamais gagné d'avance, il va peaufiner cette préparation pour ensuite arriver là où on attend l'équipe de France, c'est-à-dire à battre les meilleures nations dont elle peut prétendre faire partie. Donc avec la pléthore de joueurs dont la France dispose, avec des joueurs qui sont pas encore prêts, avec un jeu offensif qui doit être peaufiné, avec un manque d'adresse sur le dernier match criard, tant au niveau des passes qu'au niveau des tirs, et puis des joueurs comme De Colo et Fournier, qui d'habitude sont ceux qui sont chargés, tu m'arrêtes si je me trompe, de scorer à trois points, de faire preuve d'une adresse diabolique, eh bien je pense qu'ils vont se régler. C'est tout ce que j'espère et c'est pour ça que je suis tout sauf inquiet après ces trois mauvais résultats en match de préparation pour l'équipe de France de basket.
Réponse de Fred.
Alors moi ce qui m'inquiète c'est pas le fait d'avoir perdu, parce qu'effectivement, hein, parce que le souligne, on a joué des équipes qui sont très très fortes, des équipes qui sont prétendantes au titre et ou au moins une médaille. Donc concrètement en soi, ça c'est pas catastrophique, sauf que quand on regarde le contenu du jeu, là on se rend compte que ça devient très 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 compliqué, pardon. C'est-à-dire que défensivement, on est censé être des stoppeurs, être une équipe extrêmement bonne défensivement, et on prend 85 points au dernier match. C'est-à-dire que donc déjà, ça complique un petit peu la tâche, parce qu'une équipe défensive, ça doit prendre 70 points, on prend au moins 15 points de trop. Donc déjà, on a une vraie difficulté par rapport à ça. Alors Arnaud dira, et je sais, on en a déjà discuté, qu'on est bon défensivement sur une période, mais pas suffisamment. Effectivement, c'est vrai, sauf que ça arrive très vite, et on va affronter une équipe du Brésil qui sort des TQO, donc qui sait ce que c'est que de jouer des matchs difficiles, coup près, et donc il va falloir être bon d'entrée. Mais le plus gros chantier, c'est le chantier offensif. Concrètement, il n'y a rien. On ne voit rien. On a une vraie domination, normalement, à l'intérieur, et notamment contre le Canada, qui a un vrai problème dans le secteur intérieur. On n'a pas réussi à servir nos grands. C'est-à-dire qu'en gros, on a un Rudy Gobert qui met 12 points, je crois, mais en tous les cas, 6 sur 6 à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il a été performant quand on lui a donné le ballon n'est pas arrivé. On a un Victor Wembanyama qui ne sait pas s'il doit jouer intérieur, extérieur, qui se cherche un petit peu. On ne sait pas où lui donner le ballon, parce qu'on sait que c'est la personne qui est le joueur phare de notre équipe, un peu à la Mbappé. Donc on essaie de le chercher, mais lui aussi se cherche un peu. On a envie de voir un Wembanyama plus proche du cercle. On a envie de voir un Wembanyama plus dominant dans ce secteur-là. Et effectivement, on met pas un panier parce qu'il n'y a pas de mouvement. Le basket, c'est un jeu de mouvement. Il faut créer du mouvement, il faut poser des bons écrans pour libérer les partenaires. Ça ne se passe pas. Le jeu de passe n'est pas bon. La circulation de balle n'est pas bonne. Et le mouvement sans ballon n'est pas bon. Ben, moi, ça m'inquiète.
Ok, ça t'inquiète. Et après, sur le parcours de cette équipe de France, tu nous diras s'il peut y avoir un petit fiasco ou pas du tout. On est quand même à l'abri de ça. Sarah Pitkowski.
Bah, je suis plutôt inquiète. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Fred avance.
Intérêt.
Bah ouais, j'ai intérêt, mais oui, vaut mieux, j'ai intérêt. Voilà, il y a de la distance. Non, mais on se souvient de l'année dernière du championnat du monde où ça a été une catastrophe pour cette équipe de France de basket qui était soi-disant une des favorites pour être championne du monde, qui a pas même pas passé les poules. Et donc en un an, j'ai le sentiment, et de ce que je lis, qu'on retrouve exactement les mêmes points problématiques d'il y a un an.
Alors, oui, il leur manquait quand même leurs grands, là, hein, je crois.
Oui, mais le problème, c'est que les grands sont là, et pour autant, les problèmes sont pas résolus. Alors, d'entendre des joueurs qui ont encore beaucoup de choses à régler, oui, mais enfin, les Jeux, c'est la semaine prochaine, hein, c'est pas dans 6 mois. Donc, comment tu fais pour régler les problèmes en un minimum
de temps ? Mais vous connaissez les principes des préparations, malgré tout.
Oui, mais
la préparation est l'axe.
Tu as raison, oui, mais on arrive en fin de préparation.
J'ai envie de
préparation, il n'y a rien de plus rassurant.
J'ai envie de mettre un petit bémol et donner une petite pièce dans le jukebox de Pascal. Il faut se rendre compte que hier, par exemple, les États-Unis ont été confrontés au Sud-Soudan, qui n'est pas forcément une équipe favorite pour avoir une médaille, même si c'est une magnifique équipe et ça joue très bien au basket. Et ça a été plus que compliqué. Ils ont gagné d'un point, les Américains.
Donc, ce que je veux dire, c'est que
ils ont gagné, sauf que les matchs de préparation ne veulent pas non plus tout dire.
La preuve, il y a 3 ans, on fait 0-3. Hein.
Exactement. Sauf que moi, c'est le contenu plus que les défaites, encore une fois. Le contenu m'inquiète.
Il n'y a que toi qui peux juger le contenu.
Concrètement, mais
très peu de paniers. Il y a des chances hors de ce corps.
Concrètement, contre la Serbie, on met 17 paniers dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de circulation de balles, on ne trouve pas de shoot et surtout de shoot ouvert.
Tu l'expliqueras dans Basket Time, évidemment, l'excellent podcast basket, mon cher
Fred. Est-ce qu'on peut pas avancer la théorie donc d'une préparation poussée avec un staff qui a son savoir-faire?
Je n'insulte
et
pas
aussi,
le futur.
Avec
Pascal,
cette théorie importante, un grand champion, c'est pas tant de tomber, c'est de savoir se relever. Et tous ces joueurs-là, ils ont conscience que les Jeux Olympiques sont en France et qu'ils jouent gros quant à leur crédibilité. Tu vantes le basket à raison français, tu dis que bientôt ce sera le meilleur du monde, ou en tout cas comme à chaque fois ces deux dernières années, eh bien les joueurs français sont draftés et très haut dans le basket américain. Donc moi je crois beaucoup à cette phase de préparation, les matchs de poule qui vont permettre, qui sont pas gagnés d'avance, mais qui vont permettre de peaufiner le jeu offensif et de retrouver ce qui fait la force de cette équipe de basket.
Fred,
c'est la défense.
En moins de 7 jours.
Concrètement, juste rapidement, il y a l'Allemagne, il y a le Brésil, il y a le Japon dans la poule. Oui. Est-ce qu'on peut ne pas sortir ?
Non. Pour moi c'est impossible. On finira au minimum deuxième et peut-être même meilleur deuxième, parce que vu ce qui se passe, c'est peut-être même meilleur deuxième, ce qui nous permettrait d'être dans le chapeau 1 et donc d'éviter les très gros d'entrée. Mais l'Allemagne, ce sera pas facile, hein. C'est quand même le champion du monde en titre. Donc c'est
qui nous a battus. On les a battus, mais ils nous ont battus aussi.
Oui, mais quand ils nous ont battus, eux, ils avaient leur effectif au complet. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué.
On n'avait pas avec
moi. Je mise sur le fait qu'on batte l'Allemagne Et après, ben, on verra. Mais on sortira des poules, c'est une certitude.
Okay. Juste un aspect différent, parce que Sarah commençait un peu à l'évoquer par rapport à l'année dernière. On voit un état d'esprit qui semble quand même meilleur cette année, beaucoup plus de cohésion et d'union. Et c'est vrai que l'année dernière en Indonésie, c'est ce qui a pêché, et notamment la défense, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de solidarité dans cette équipe, beaucoup d'individualisme. Et là, on sent aussi que ces vertus sont revenues un petit peu au cœur du projet France. Après, il suffit d'une défaite contre le Brésil, peut-être samedi prochain pour le premier match des JO, pour que tout vole en éclats.
Je suis complètement d'accord, il faut bien commencer, Arnaud. C'est très important ce match.
Ok, 17h15, France-Brésil, samedi prochain, premier match de notre équipe de France de basket. On va tranquillement, évidemment, tout au long de la semaine, vous donner le programme, notamment du premier week-end, parce que ça va être très important pour ces Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, c'est seulement dans quelques jours. Vendredi, c'est la cérémonie d'ouverture. Et forcément, on a envie de croquer à pleines dents dans ces Jeux Olympiques.
Il y a le rugby mercredi aussi.
Ça commence aussi un peu avant. Incroyable. 10h45. On se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG. On s'en fout pas. Et notamment un rapport accablant dans l'affaire des rugbyman Jégou et Oradou. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski. Nous allons parler des Jeux Olympiques à partir de 11h. Qui va allumer la vasque olympique? Est-ce un véritable enjeu ou juste un symbole? Et sachez que vous allez pouvoir remporter l'expérience RMC. Vous avez encore une trentaine de minutes pour jouer. Attention, ce matin dans les GG, nous vous offrons deux places pour des épreuves de natation, et pas n'importe quelle épreuve, hein. Les finales du soir du 31 juillet avec... Écoutez-moi bien, c'est très important. Le 100 mètres nage libre, hommes et femmes, ce sont les deux finales. Mais également, c'est une soirée exceptionnelle, les deux finales du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse. Les deux finales à une heure d'écart. Deux finales disputées par Léon Marchand.
C'est incroyable, on peut jouer nous?
Par Léon Marchand, mais bien sûr Pascal, tu peux envoyer Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16, encore 30 minutes. C'est vraiment l'une des plus belles soirées de natation. Et c'est le mercredi 31 juillet. Allez-y, précipitez-vous. Dans 30 minutes, le grand gagnant sera avec nous en direct. Allez, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
L'actualité de la semaine de ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première, c'est Rafael Nadal qualifié pour sa première finale depuis 2022. On s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Non, je m'en fous pas.
Pascal Dupraz.
Ouais, je m'en fous pas.
Fred.
Je m'en fous pas.
Rafael Nadal s'est donc qualifié, c'était hier, pour la finale du tournoi ATP 250 sur terre battue de Bastad. Sa première, je le disais, finale depuis Roland-Garros en 2022. Et évidemment, il réussit cette performance à une semaine du début des Jeux Olympiques, où il va s'aligner en simple, mais également en double, avec son compatriote Carlos Alcaraz. Sarah, ton regard sur cette qualification en finale de Rafael Nadal, et surtout peut-être Sarah, ton regard sur il y a quelques semaines quand il s'est présenté à Roland, on le sentait évidemment en difficulté dans ses matchs de préparation. Là ça semble plus le cas.
Oui, enfin, il joue pas non plus le même type de joueur. Un tournoi ATP 250, il n'en a plus joué depuis des lustres. D'ailleurs, il avait remporté ce même tournoi il y a 19 ans. Donc, comme il l'a dit de manière ironique, il vient défendre son titre 19 ans après. Il a besoin de gagner des matchs, et c'est sûr que 4 matchs consécutifs, c'était pas arrivé depuis plus de 2 ans aussi. Et quand on lit ses conférences de presse, il dit qu'il est en train de ressentir des choses qu'il avait perdues. Mais que c'est laborieux, c'est quand on regarde les matchs, c'est très 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 loin du grand Nadal. On sent quand même une souffrance, il bagarre à tous les niveaux, sa balle ne fait plus aussi mal qu'avant. Alors oui, il veut être prêt pour les Jeux Olympiques, mais il était engagé en simple et en double il a dû faire forfait parce qu'il peut pas jouer plus de un match par jour, c'est pas possible. Donc la lueur d'espoir pour les Jeux, elle est quand même très minime. Et enfin, simple et double au jeu, c'est super ambitieux. C'est très ambitieux. Voilà, je lui souhaite de remporter un tournoi, son 93e titre sur le circuit, mais c'est quand même très laborieux.
On va écouter Rafael Nadal après cette qualification pour la finale de Bastad.
Always is a great feeling to be back in the final. I won 4 matches in a row, something that I.
C'est toujours plaisant de revenir en finale. Je n'étais pas capable de le faire ces deux dernières années. Beaucoup de choses se sont passées, je perdais avec les blessures, mais je me suis battu durant tout le tournoi pour être là où je suis. Les matchs d'hier et d'aujourd'hui m'ont prouvé plein de choses, j'en suis très content. On verra si je peux jouer encore mieux en finale. To play a
little bit better tomorrow. Et c'est aujourd'hui évidemment la finale de Rafael Nadal. Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le rapport accablant dans l'affaire des rugbyman Jégou et Oradou. On s'en fout, on s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkowski.
Mais non, on s'en fout pas.
Une quinzaine de blessures ont été constatées sur la femme de 39 ans qui, vous le savez, a porté plainte pour viol contre Oscar Jégou et Hugo Oradou, d'après le rapport médico-légal relayé par Le Parisien et un média argentin, des éléments confirmés par BFM TV, par l'assistant de l'avocat de la plaignante. Après son dépôt de plainte, la victime présumée avait passé des examens médicaux. Alors ont été notées des lésions dans les parties intimes, des différents hématomes au menton, sur la paupière gauche, les deux jambes, les fesses, l'entrejambe, la poitrine et le thorax, plusieurs éraflures également au niveau de l'omoplate. Je rappelle que les deux joueurs du 15 de France, actuellement en résidence surveillée à Mendoza, le temps de l'enquête, ont été mis en examen pour viol aggravé. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ou pas plus sur cette histoire, même si évidemment on ne revient pas sur ce rapport, mais j'avais quand même envie de vous donner des précisions et c'était important de les divulguer, Fred.
Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment de commentaire, juste que c'est... Enfin, on ne sait pas quoi dire, on est estomaqué, on est sous le choc et... Bon courage à elle, quoi. Je ne sais pas trop quoi dire.
Sarah Pitkowski.
Moi aussi, je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à imaginer un tel comportement de deux jeunes joueurs comme ça. Je j'ai toujours dans un petit coin de la tête en disant c'est pas possible, il y a une explication. Mais là, le rapport, parce que jusqu'à maintenant, c'était des témoignages. Là, le rapport qui tombe, donc le rapport médico-légal, prouve bien que ce rapport a été d'une violence inouïe, ce que eux se défendent. C'est incompréhensible. Mon cerveau n'arrive pas à entendre que deux jeunes joueurs comme ça puissent se comporter de la sorte. C'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Voilà.
Oui, on a bien aussi la sensation que c'est une bataille médiatique aussi, ce genre d'affaires, parce que...
Ça faut être prudent.
Évidemment, ouais. Et c'est pour ça que nous le sommes, mais il y a des victoires parfois petites, mais importantes. Par exemple, les deux joueurs qui ne sont plus en détention, qui ont eu en fin de semaine la surprise et évidemment le bonheur d'apprendre qu'ils seront en résidence surveillée à Mendoza. Et puis le lendemain, on a ce rapport accablant. Donc là, c'est reparti pour la balle dans le camp et bien de la défense. C'est vrai qu'on sent que durant de longues semaines, de longs mois, on va avoir ce genre d'éléments et d'événements qui vont nourrir la presse. Mais voilà, je voulais vous donner ce rapport accablant dans cette émission. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Emmanuel Macron qui a appelé Joël Embiid pour le convaincre de jouer avec l'équipe de France. Une information qu'on n'avait pas. On s'en fout, on s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Oh bah non, on s'en fout pas.
Pascal, t'as des choses à dire, Pascal.
Moi, je m'en fous pas. Ouais.
Ok.
Je m'en fous pas du tout.
Alors, le pivot de Team USA, Joël Embiid, on en a souvent parlé dans cette émission, je ne vais pas vous rappeler tout cet épisode, mais il a révélé cette semaine au New York Times que le président de la République, Emmanuel Macron, l'avait personnellement contacté afin de le convaincre, vous le savez, de jouer avec l'équipe de France. Et voici ce qu'il dit, et je trouve intéressant, je ne pensais pas qu'il prendrait cet axe pour parler au président. Et j'ai eu l'opportunité de parler au président de la République de ce qui se passait, et je lui ai dit qu'une des choses qui me préoccupait beaucoup, c'était la relation entre la France et le Cameroun, ainsi qu'avec beaucoup de pays africains en général. Il se passe beaucoup de choses là-bas, il y a beaucoup d'opposition avec carrément l'idée d'expulser les Français parce qu'il y a eu tant d'années d'oppression. C'était donc mon état d'esprit. Ma famille vit toujours au Cameroun et je ne veux pas qu'ils en subissent les conséquences. Je veux qu'ils soient en sécurité. Les relations entre la France et le Cameroun ou l'Afrique en général ne sont pas bonnes. Il rappelle qu'il a eu un appel agréable avec le président de la République. Il a reçu un texto qu'il n'a pas répondu tout d'abord. Il a reçu un texto puis il a compris ce qu'il se passait et ils ont eu une bonne discussion. Sarah Pitkowski.
Alors, quand Emmanuel Macron tente de convaincre des gens dans le sport, ça marche pas, hein, entre Kylian Mbappé qui doit rester au PSG et Embiid qui doit porter le maillot de l'équipe de France. Donc, vaut mieux qu'il s'occupe de la politique que du sport, en l'occurrence. Voilà, c'est juste pour dire, pour dire cette petite chose-là. Okay. Vaut mieux arrêter parce que généralement, ça ne fonctionne pas.
Ouais, Fred.
Alors, de plusieurs choses. La première, quand je vois Joël Embiid avoir cette défense, je me dis que s'il avait eu cette défense dès le départ, s'il avait annoncé dès le départ que c'était ses choix, etc. C'était comme ça, j'aurais été le premier à me taire, à dire
félicitations. Il fallait pas avoir le passeport français.
Tu as tout à fait raison.
Il fallait pas demander le passeport français. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que cette défense, pour moi, elle est parfaite. Sauf que pour moi, il vient trop tard. Comme par hasard, elle arrive maintenant. Comme par hasard, il s'en défend comme ça. Mais encore une fois, s'il m'avait dit dès le départ, j'ai pris cette décision parce que politiquement, c'est ce que je ressens, je n'aurais pu que m'incliner, lui serrer la main et dire tu félicitations. Mais par contre, j'ai un problème avec le président. Il n'a pas autre chose à faire que appeler Joël Embiid pour qu'il vienne jouer en France. Sérieusement,
j'ai une remarque à faire là. Si je peux prendre la parole, vous ne l'avez pas donné depuis. c'est un message personnel à notre président, Monsieur Macron. Je suis un ancien sportif, pas aussi prestigieux que Joël Embiid, mais s'il pouvait m'appeler, j'ai des choses à lui dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà.
Très bien. Merci Pascal pour cette observation. Voilà,
merci. Un texto. Puis après, j'ai des choses à lui dire. Voilà, mais ça restera entre lui et moi. Très bien. Tu peux m'appeler.
Tu viendras nous confier évidemment cette discussion dans les grandes gueules du sport. Hein. Allez, 10h57, ouais. On se retrouve dans quelques instants pour parler de cette vasque olympique. De l'allumage, est-ce un véritable enjeu ou juste un symbole? Vous n'êtes pas d'accord, les GG, à tout de suite sur RMC. On vous donnera d'ailleurs les dernières informations.
RMC, Jeux Olympiques de Paris 2024.
6-5.